Où a eu lieu l'ascension du Seigneur? Où est-ce que cela s'est passé? Quand elle a eu lieu, nous le savons. Nous l'avons d'ailleurs entendu dans la première lecture, 40 jours après Pâques, 40 jours après la résurrection, ce qui est évidemment une date symbolique qui renvoie aux 40 ans au désert, aux 40 jours des tentations. C'est un symbole de renouvellement, de régénération, parce que 40 semaines font 9 mois. Autrement dit, une nouvelle naissance. Nous savons quand, mais où. Où a eu lieu l'ascension du Seigneur? La réponse se trouve immédiatement à la suite du texte qu'on a entendu en première lecture. On aurait pu rajouter la phrase d'après, qui dit que quand les disciples retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit du mont des Oliviers, qui est proche de Jérusalem. L'ascension a eu lieu au mont des Oliviers. Et on peut même dire à Gethsémani, là où Jésus avait vécu son agonie, avant d'être arrêté et livré pour sa passion, là où il avait remis sa volonté humaine entre les mains du Père, dans la volonté divine. En ce lieu où il avait été enlevé par les hommes, enlevé, capturé par les hommes, en ce même lieu, il est enlevé au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Le lieu est aussi important que le moment. Les deux sont inséparablement liés, il faut une date et un lieu. Et il en va dans l'Église des fêtes que nous célébrons. Les fêtes dans l'Église obéissent à des temps et des lieux déterminés. C'est le principe de l'incarnation, nous sommes une religion de l'incarnation, un temps et un lieu, ici et maintenant. Et si je dis dans l'Église, c'est parce que cette conviction n'est plus partagée par notre époque. Elle est même considérée comme un préjugé. Et il y a un certain nombre de nos contemporains qui estiment qu'on peut faire la fête, pour reprendre cet exemple, on peut faire la fête n'importe où, n'importe quand, pour ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Et vous avez tous eu, et on a tous des voisins, qui font la fête, qui nous empêchent de dormir, parce que le motif leur semble suffisant, au mépris des travailleurs, des gens qui travaillent, des personnes qui sont malades ou qui souffrent. Et quand dans une société, le loisir et la fête passent avant le travail et avant la charité, on est en droit de s'inquiéter. Les applications de ce principe de l'incarnation sont multiples. Elles sont, par exemple, la raison pour laquelle l'Église a depuis l'année dernière, je crois, on va dire interdit, demandé que, en cas de crémation, lors de funérailles, en cas de crémation, les cendres du défunt ne soient plus dispersées. Voilà, elle a demandé que, évidemment, il est tout à fait logique qu'il y ait une crémation, mais que les cendres du défunt ne soient plus dispersées. Parce qu'il faut un lieu de mémoire, une date et un lieu. C'est, je l'ai dit à un certain nombre d'entre vous, on s'était réunis notamment sur ce sujet, c'est un peu le défaut des conférences de carême à la cathédrale Notre-Dame, qui utilise un espace liturgique sacré pour en faire un espace culturel. Et il faut dire aujourd'hui que c'est tentant, pas seulement pour ceux qui veulent tout rentabiliser, c'est tentant d'utiliser les églises comme des salles de conférences, sinon de spectacles, voire de répétitions, de concerts. L'espace est tellement cher dans nos villes. Nous avions ici, à Notre-Dame de Compassion, nous hébergions un excellent chœur musical pendant des années, pour ces répétitions hebdomadaires. Et quand je leur ai demandé de commencer par un petit temps de prière, juste un petit temps de prière au début, pour honorer ce lieu sacré, il est parti. Les conférences de carême, des conférences culturelles depuis quelques années, devra avoir lieu au Bernardin et pas à la cathédrale. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on ne peut pas déplorer la transformation de nos églises de campagne en salles de restaurant, en hôtel, en je ne sais quoi, si l'exemple, le mauvais exemple est donné d'en haut. Au Bernardin, il y a un mois, nous avons fait une erreur. Il y avait la même ambiguïté, une erreur, non pas de lieu mais de temporalité, lors de l'invitation du chef de l'État par la conférence des évêques de France, l'erreur de ne pas lier suffisamment l'événement à une date, un calendrier, une date symbolique, et en l'occurrence la fête de Pâques qui venait d'avoir lieu. Cela aurait nécessité d'insister sur ce que l'Église venait de vivre, même publiquement avec les chemins de croix dans les rues, le feu nouveau de la vigile pascale, les baptêmes d'adultes, la rénovation de nos promesses baptismales, pour rappeler en particulier sur des sujets d'actualité sans quoi notre discours sur la bioéthique est incomplet, moi, voire même assez creux, le mystère de la rédemption, et même de pouvoir chercher à approfondir ce que signifie la souffrance rédemptrice. Qu'en est-il du sacrifice du Christ? Quelle est la spécificité, la force incomparable du discours de l'Église en matière bioéthique qui fait qu'elle n'est pas une ONG? La résurrection, l'espérance de la vie éternelle, la transcendance de la personne. Sans oublier le jugement final. Le Christ est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Chacun de nous rendra compte de ses choix et de ses actes, dans tous les domaines de sa vie, y compris en matière bioéthique. Lorsque les apôtres interrogent Jésus, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il faut comprendre cette question des apôtres. Ça veut dire, « Est-ce maintenant que tu vas rendre à chacun ce qu'il mérite ?» C'est ça la royauté, c'est le jugement. Si la fête de Pâques, si le mystère de notre rédemption avait été davantage explicité, on aurait évité, sinon l'ambiguïté du discours du chef de l'État, du moins l'extrême divergence des interprétations, totalement opposées, dont nul ne peut dire exactement s'il s'agissait d'une reconnaissance méritée ou d'une flatterie calculée. Qu'est-ce qui permet de faire la différence entre un compliment et une flatterie? La sincérité de la personne qui l'exprime? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que l'intention, ses intentions, c'est justement du domaine de l'intentionnel, c'est hypothétique et c'est toujours secret. La différence tient aux circonstances, le moment et le lieu. Le prétexte et le contexte, une date et un lieu. On a besoin d'occasions particulières pour féliciter quelqu'un, de date et de lieu choisis. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un travail, il faut qu'il soit achevé ou du moins qu'une étape importante ait été franchie. Sinon le message flotte. Pas de texte sans prétexte ni contexte. Pour féliciter quelqu'un, attendez qu'il ait fini. On aurait pu inviter le chef de l'État, par exemple, au moment du départ de l'archevêque de Paris, du cardinal 23. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Nous avons besoin de reconnaissance, mais nous devons savoir de qui nous l'attendons, et quand et où. Dans une conférence qu'il avait faite à l'école de la foi à Fribourg, en Suisse, en septembre 1976. Le père Joseph Wresinski, qui était un des grands prophètes de ces dernières décennies, prophète des pauvres, de la place des pauvres dans l'Église, le père Joseph Wresinski disait « Ce que le pauvre veut, c'est la considération. Être enfin considéré, estimé, honoré, renouvelle sa personne, change sa vie. le problème de l'honneur. C'est le problème crucial des pauvres, disait-il. Mais c'est aussi le problème fondamental de tous les enfants de Dieu. Rendre honneur à Dieu, lui rendre honneur et gloire, tout honneur et toute gloire. Mais comment rendre honneur au Père sans honorer ses enfants? Et inversement, les deux ne sont pas séparables. Comment honorer l'Église sans honorer Dieu? Au jour de l'Ascension, tandis que les apôtres regardaient, Jésus s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Il fut enlevé au ciel et il fut enlevé à leurs yeux. La chose s'était déjà produite au jour de Pâques avec les deux disciples dans ce village d'Emmaüs. Au moment de la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Il disparaît de leurs yeux pour être désormais, comme pour nous, dans leur cœur. Mais l'ascension a eu lieu au mont des Oliviers, là où Jésus avait souffert l'agonie, mais l'agonie du jugement des hommes. Là où il avait commencé à endurer jusqu'à la mort le jugement d'autrui. Le regard malveillant, c'est une des plus grandes causes de souffrance dans la vie. C'est une des plus grandes marques du péché. Évidemment, pour chacun de nous, notre sensibilité, notre vulnérabilité est variable. Ça dépend de notre histoire, de notre sensibilité, de notre situation sociale. Qui peut dire qu'il n'en a jamais souffert? C'est le regard des autres qui nous empêche de voir en chaque personne et d'abord en nous l'image de Dieu. La grandeur et la beauté. Eh bien, fêter l'ascension, c'est fêter la liberté de vivre, j'allais dire enfin, de fêter, vivre sous le regard de Dieu, de moins dépendre du regard des autres, particulièrement lorsque c'est un regard critique, de rejet malveillant, en faisant entrer notre humanité dans la gloire. Le Christ la libère des regards de critique, des mauvais regards, de tous les regards de rejet, pour la combler de l'amour de Dieu. Seul comptera pour nous, au ciel, le regard d'amour du Père, le regard infini de tendresse de Dieu pour chacun de nous. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira à la miséricorde sera sauvé.